Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre émission consacrée aujourd'hui à la cathédrale de Chartres et surtout à la correspondance que Michel Boutier, notre invité de ce jour, a pu établir entre les portails nord et sud de la cathédrale de Chartres. On a l'impression que cette grande profusion de statues autour de la cathédrale met en exergue certains personnages, mais en réalité Michel Boutier peut prouver qu'il y a un lien très fort entre les personnages d'un côté, côté nord, et en plus entre les personnages du côté sud. Donc bienvenue, cher Michel Boutier, vous êtes historien, dans notre émission vous êtes le bienvenu, car grâce à vous, je pense qu'on va découvrir des choses très intéressantes pour la connaissance de la pensée théologique au Moyen-Âge. Dans une dernière émission, vous nous avez parlé de Jean Texier, qui est un maître bâtisseur. Là, nous étions au XVIe siècle. Et là, aujourd'hui, vous allez nous parler de l'importance de la répartition des images. Donc, il n'y a pas de hasard. Il y a bien un programme prédéfini, sans doute.
Bonjour à tous. Et merci de m'avoir invité. Oui, alors parler du... Quand on parle du portail nord ou du portail sud, il faut d'emblée dire on parle des portails du transept. On ne peut pas prendre un portail en ignorant l'autre. C'est pas possible, c'est un tout. Un tout. Donc il faut déjà avoir une force de synthèse bien construite, hein, pour tout saisir d'un seul coup, et puis ensuite rentrer dans le détail. Et évidemment, il n'y a aucun hasard. Donc derrière cela, c'est pas des images qui sont là pour faire joli, pour décorer. C'est la mise en image d'un texte, d'une pensée théologique. Et on appelle ça l'économie du salut. Alors évidemment, c'est un peu bizarre.
Parce va falloir nous expliquer.
Le terme économie, maintenant, n'a plus rien à voir avec le salut. Eh bien, écoutez, c'est simple. Vous ouvrez un dictionnaire, hein, puis vous regardez le mot économie. Il a plusieurs acceptions. Et la première, on va vous dire que c'est une mise en ordre, un ensemble cohérent. Ah voilà, ben c'est ça qu'il faut retenir. C'est que l'histoire du salut, donc la chute de l'homme, sa remontée grâce au mystère d'incarnation, de l'incarnation de Dieu par la personne du Fils du Christ, qui nous conduit à retrouver l'image qu'on a perdue, eh bien évidemment ça va se dérouler dans l'histoire en plusieurs événements, en plusieurs phases, etc. Et tout ça s'est mis en ordre. Il y a une suite, il y a des correspondances. Ce n'est pas acheté comme ça au hasard sur la table. Et c'est pour ça qu'on appelle ça l'économie du salut. Or, nos six portails, je dis bien nos six portails, il y en a trois au nord, trois au sud, sont bourrés d'images, comme vous le savez, et elles sont toutes mises en ordre pour former un ensemble cohérent. Alors, cette cohérence-là, elle est bien entendu fournie par le thème du salut, bien entendu, mais mieux que ça. Elle correspond aux espaces dans lesquels les images sont situées. Alors d'abord la cathédrale. La cathédrale, elle n'est pas non plus mise n'importe comment dans l'espace, elle est orientée sur les quatre points cardinaux. Donc les images, elles aussi, vont se trouver soit au nord, soit au sud, à l'est, etc. Et chacun de ces pôles ont une qualité au Moyen-Âge. Bon, l'est, bien sûr, c'est la lumière, la vie. Donc c'est le bien, etc., c'est les ténèbres qui chassent la lumière. L'Occident, c'est le contraire, du verbe latin occidere, qui veut dire tuer. Et donc là, c'est les ténèbres qui prennent la priorité sur la lumière, donc c'est la mort, c'est le mal, c'est Satan, etc. Et alors, le Nord, eh ben justement, on est entre les deux. Ça fonctionne bien, hein. On est entre les deux. On n'a pas la vie éternelle, on n'est pas dans la mort non plus. On n'a pas on est pour complètement ignorant, mais on n'a pas non plus la vérité, etc., etc. On est vraiment entre les deux, on est dans une grisaille. Et ensuite, eh bien, si on passe au sud, alors à ce moment-là, on est en pleine lumière, c'est le zénith. Et donc là, la révélation éclate. Alors évidemment, pour le chrétien, la lumière, c'est le Christ. Et ensuite, donc il y a ces quatre orientations qui vont imposer la place des thèmes et leur mise en image. Et ensuite, il faut considérer également que dans un espace, il y a le milieu, il y a le bas, le haut, la gauche, la droite. Et tout cela a une qualité également. Vous pensez bien que quelque chose qui va être au milieu, c'est forcément la chose la plus importante. Et si en plus de ça, elle est en haut, alors là, elle est en plus exaltée. Ce qu'il y a sur les côtés, c'est les commentaires. On retrouve d'ailleurs cette répartition, ce mode de pensée, cette répartition dans les pages des manuscrits. Par exemple, si vous ouvrez une Bible médiévale, vous avez le texte de la Bible au milieu, en grosses lettres, et tout autour, vous avez des petits textes avec des petites écritures qui sont les commentaires des pères de l'Église, des théologiens. Ça tourne comme ça en rond. Le milieu, le centre et la périphérie.
Donc, ce sont les commentaires qu'on appelle la glose.
C'est la glose, exactement. Et les images des portails, c'est exactement rangé de la même manière. Et évidemment, ici, l'objectif, c'est de passer au nord pour aller au sud. De passer de ce... Alors, encore une fois, nous ne sommes pas dans les ténèbres, mais on n'est pas dans la lumière non plus. C'est de passer de cette espèce de brouillard à la pleine lumière. Et ça va se faire en passant, en traversant, en rentrant dans le temple, qui est la cathédrale. C'est Saint Jérôme qui nous dit tout cela. Il nous dit, le chrétien, il est au nord. Alors, pour Saint Jérôme et les autres grands docteurs de l'Église, le nord, ça correspond au mal aussi. Saint Jérôme, il ne faut pas oublier qu'il était à Jérusalem. Et pour un juif, Babylone est au nord. Et donc, les envahisseurs qui ont emmené le peuple en déportation venaient du nord. Donc c'est l'Aquilon, comme disent les textes, le vent froid, et voilà. Et donc il faut accéder à la pleine lumière et à la chaleur du sud. Mais ça se fait en passant par le temple. Et le temple, c'est la cathédrale, c'est-à-dire cet espace sacré terrestre qui va nous transformer et puis nous permettre de passer enfin de l'autre côté. Donc, alors géographiquement, c'est ce que vous faites. Moi, souvent, je le prends pour un raccourci. On traverse la cathédrale pour un raccourci. Mais c'est pas idiot, finalement. À condition de le faire toujours dans le même sens.
Donc, du nord vers le sud.
Du nord vers le sud, voilà. Et puis, quand vous êtes au milieu, vous avez une petite pensée spirituelle et ça va mieux. Et c'est exactement ce qu'indique Saint Jérôme dans le parcours d'un chrétien qui se reconstruit.
Et en plus, on était baptisé dans la cathédrale au Moyen-Âge.
Oui, forcément, donc c'est là que se passent les sacrements. Donc c'est pour ça qu'il faut passer par le temple, pour se reconstruire. Donc vous voyez déjà, il y a un jeu de correspondance extrêmement complexe. Et quand on est face aux trois portails du nord, il y en a un qui est au centre et deux latéraux. Donc il y a forcément un thème central, et les deux autres vont conduire vers ce thème central. Or, les deux autres portails, il y en a un qui est vers l'ouest et un qui est vers l'est. Quand vous allez passer au sud, c'est pareil. Quand vous regardez les trois portails, il y a un thème central qui va être en correspondance avec celui du nord, et vous avez un portail qui va se trouver à l'ouest, un portail qui va se trouver à l'est. Tout ça va conditionner les thèmes et les images de l'économie du salut. On ne va pas les poser n'importe comment dans les six portails.
Michel Boutier vient de nous expliquer l'importance de la répartition dans l'espace des images dans les portails de la cathédrale. celle de Chartres qu'il connaît plus particulièrement, mais cela vaut évidemment pour toutes les autres cathédrales gothiques, ça c'est sûr. Et là, dans cette deuxième partie, Michel Boutier, qui est un historien et grand connaisseur des cathédrales gothiques, va nous expliquer aussi que le choix des auteurs sur lesquels on va baser le programme des images n'est pas anodin non plus.
Non, parce que même si on a une bonne culture religieuse, il ne faut pas se lancer dans une petite interprétation personnelle des images médiévales. C'est un risque majeur. Et oui, il s'agit d'une théologie. La théologie, c'est une science, hein, une science humaine d'ailleurs, et donc qui évolue. Et donc la manière d'interpréter les Écritures au XIIIe siècle n'est plus la même que celle de notre époque. Et donc, si on l'ignore, ces auteurs-là, on va tomber à côté.
On va faire un anachronisme.
Oui, mais des erreurs énormes. Et on va rien comprendre. D'ailleurs, on va rapetisser la cathédrale à une petite soupe tout à fait indigne. Bon. Et donc, il faut absolument relire les sources littéraires que les chanoines qui ont composé ce programme-là lisaient. Et donc, on peut se perdre dans les auteurs, parce que, évidemment, des écrivains ecclésiastiques. Donc, il va falloir avoir une règle de conduite de recherche qui nous évite de tout trouver dans tout. Et donc, là, c'est relativement facile. Vous avez un portail sur les six où il y a des ecclésiastiques considérés comme des bons pasteurs, je vais vous en parler. Et parmi eux, on reconnaît d'une manière sûre et certaine Grégoire le Grand et Saint Jérôme. Il y a peut-être aussi Saint Ambroise, ça c'est moins évident. Vous avez déjà trois pères de l'Église. Il y en a un quatrième, Saint Augustin. Ah, il n'est pas dans le portail. Mais voilà, il est dans les vitraux de la cathédrale. Nos quatre personnages sont dans les vitraux de la cathédrale, dont deux, d'une manière sûre et certaine, sont en statue dans les portails. Alors voilà, bah écoutez, c'est simple. Hein. Donc, on va se référer à ces quatre grandes sources qu'on peut compléter avec des ouvrages généraux sur le Moyen-Âge, dont on sait qu'ils étaient dans toutes les bibliothèques de cathédrales. Et voilà, on a tout. On a tout pour interpréter cette énorme quantité d'images. Donc, je m'en tiens à ces quatre auteurs-là, plus, encore une fois, je vous dis, des commentaires généraux. Donc, Grégoire le Grand, évidemment, c'est une source majeure, Saint Ambroise, encore une fois, donc Saint Augustin, et donc des auteurs.
Oui.
Et Saint Jérôme, bien sûr, dont je vous ai déjà parlé. Voilà, donc, avec ces auteurs-là, on est sur la bonne voie, on va pas délirer, et effectivement, on s'aperçoit, donc, côté nord, c'est là que tout commence, puisque en premier plan, et les plans, il y a premier plan, second plan, etc. Ce qui est face à vous immédiatement, c'est le récit de la Genèse, la création de l'homme. Évidemment, tout commence là. Donc vous montez vers la gauche le récit, vous arrivez au sommet de l'arc, évidemment, c'est là que se trouve la création de l'homme et de la femme. Et après, c'est la chute, ça tourne mal. Et bien justement, vous continuez la lecture en descendant de l'autre côté de l'arc, et ça vous emmène où ? À l'ouest. Eh oui. Vous voyez que c'est bien monté. Et à l'ouest, l'image principale du portail, c'est Job, sur son tas de fumier. Job est assailli par le mal. Et oui, écoutez, ouest. Et donc, alors évidemment, je n'ai pas le temps de tout éplucher. Hein. Mais ensuite, dans ces grandes figures, des grandes statues qui sont justement sur les pieds droits de chaque côté, il y a des figures éminentes qui évoquent le retour du peuple juif de l'exil à Babylone. Donc ça va être le retour avec Jésus ben Sirac, Zorobabel, etc., etc., Néhémie, tous ces grands personnages-là. Le roi de Babylone va les laisser repartir vers Jérusalem, reconstruire le temple. Donc c'est ce retour qui ici est engagé, annoncé, à la suite de la chute. Et donc il y a une statue qui va nous engager à aller vers l'est, Balaam. Balaam, c'est une figure contestée, donc là je ne m'étends pas, il faudrait rentrer vraiment dans des détails.
Alors Balaam, ça serait, si nous sommes devant le portail nord, la porte de droite, la statue de l'ébrasement, donc à gauche de la
gauche,
porte d'entrée,
voilà.
Ce personnage debout sur...
Sur une ânesse.
Sur une ânesse.
Voilà. Et donc en fait, il est donc justement le plus proche de l'est. Alors allons à l'est maintenant. Donc, quand on est face au portail, au portail de gauche. Donc nous prenons la direction de l'est. Après avoir chuté à l'ouest. Que va-t-on voir ? l'épiphanie. L'épiphanie, c'est quoi? C'est l'apparition de la lumière, de l'étoile. La nativité n'est mise qu'en sur le linteau, c'est-à-dire en dessous. Donc le thème principal, c'est bien l'apparition de la lumière. Il y a aussi l'apparition de la vie avec la nativité, bien entendu. Donc vous voyez, vous vous déplacez vers l'est. Alors vous êtes toujours au nord, c'est pas la grande lumière, mais vous avez les prémices de la lumière, c'est une étoile dans la nuit, c'est ce qu'il y a de plus petit, et un bébé, c'est les prémices de la vie. Voilà. Et alors, à ce moment-là, toutes les voussures autour sont organisées sur le thème de la lumière. Les vierges de feu, les vierges de chasse, c'est le thème de la lumière, c'est les anges qui portent les flambeaux, etc. Bon. Et puis les grandes statues, c'est l'annonciation. Alors, dans ces grandes statues-là aussi, il y a le rappel, donc, de cette fameuse histoire d'Adam et Ève. Comment Ève, c'est la femme qui a dit non, qui a trompé, qui s'est laissée tromper par le diable, et Marie, celle qui a dit oui. C'est le fameux inversement Ève avait, c'est pas qui est très, très cher aux médiévaux. Donc, vous voyez, tout est construit de cette manière-là. Donc là, effectivement, le salut est déjà arrivé. Et ce que j'oubliais de dire aussi, c'est qu'à l'ouest, on va mettre le point sur l'évocation des hérétiques. Ils sont aussi bien dans l'Église que l'extérieur. Ce sont aussi les mauvais pasteurs de l'Église. Donc là, on voit, il y a un chien qui est censé garder le troupeau, finalement il roupille, il adorable d'ailleurs, mais enfin il ne fait rien, il fait pas son boulot. Et donc tout ça c'est dans les textes. Jérôme Grégoire le Grand en parle énormément. Et donc ensuite on passe à l'Est, et à ce moment-là, là on a les bons bergers. Puisque c'est dans le linteau, on voit donc l'annonce aux bergers, et ceux-là, à l'annonce de l'ange, vont aller reconnaître la divinité de l'enfant. On voit, il y a une inversion ici. On pourrait même rentrer dans des détails comme les codes de lecture, et on voit au portail Joseph, donc à l'est, qui est associé à une colonne parce qu'il ne doute plus. Il est fort dans sa foi, c'est ce que veut dire le rapprochement des deux. Et de l'autre côté, du côté de Job, il y a les amis de Job, et on en voit un qui se tire la barbe. Ça, c'est un code de lecture qui indique que ces trois amis sont vidés par le doute, ils ne croient plus en rien. Ils sont trompés aussi par les hérétiques, etc. etc. Donc, oui, le balancement est tout à fait extraordinaire. C'est vraiment très très bien construit. Et ensuite, tout ça nous conduit vers le portail central. Et l'image principale, c'est les fins dernières de la Vierge Marie. Donc la Vierge Marie, comme nous, elle est morte, elle est ressuscitée. Alors, elle n'a pas entendu le jugement dernier, encore que dans les textes des apocryphes, il y a une allusion à cela. Bon. Et ensuite, donc, on la voit entrer dans la Jérusalem céleste, cette petite architecture qui entoure la scène, et elle est couronnée donc par son fils. Thank you. Alors, nous étions donc devant
le couronnement de Marie.
Le couronnement de la Vierge Marie, c'est son entrée au ciel. Et donc, évidemment, c'est l'image modèle qui est proposée à tous les chrétiens qui sont au nord, suivent la Vierge Marie. Donc, tous les grands personnages qui sont également de chaque côté de la porte, c'est l'Église. Oui, c'est les personnages de l'Ancien Testament, certes, mais ça se termine par Saint-Pierre. C'est l'Église d'avant. Parce que pour les pères de l'Église, il n'y a qu'une Église. Il y a l'Église d'avant et l'Église d'après. L'Église d'avant, l'incarnation. L'Église d'après, l'incarnation. Voilà. Et donc, tout cela nous conduit vers ce qu'on appelle le niveau anagogique, c'est-à-dire qu'on voit par avance vers où on va. Alors maintenant, il faut passer au sud, au portail sud. Or, justement, la correspondance des trois portails est sidérante. C'est que vous avez le portail donc où il y a Job qui est assailli dans la souffrance, etc. Et le portail qui est juste en face au sud, il est consacré aux martyrs de l'Église. Et les commentaires de Grégoire le Grand pour Job annoncent des persécutions à venir de l'Église. Et donc, quand on va se trouver au sud, ce portail-là sera à l'ouest. Tous les martyrs sont assaillis par les forces du mal. Le portail où il y avait l'épiphanie de la nativité et donc les bons pasteurs, eh bien, sa correspondance au sud, vous allez trouver là tous les bons pasteurs de l'Église. Hein, je vous parlais des statues de Saint-Jérôme, de Grégoire le Grand, etc. Ils sont là. Et ce qui va être mis en exergue, c'est la vertu de la charité. Avec Saint-Martin, Saint-Nicolas, etc. C'est la vertu qui ne passe pas. Hein. Et c'est avec cette vertu-là que vous allez entrer au ciel. C'est la seule qui va demeurer au ciel. Et donc, évidemment, en correspondance avec l'entrée de Marie au ciel, ça vous conduit au portail central sud, qui est là l'entrée de toute l'humanité au ciel, après le passage du jugement. Donc on voit très bien cette gigantesque cohérence entre tous ces thèmes. Et enfin, dernier stade, c'est que lorsque l'on est au sud, nous sommes en pleine lumière, et le porche, les images qui sont sur le bord du porche, donc à l'opposé de la Genèse, hein, eh bien, ce sont les vieillards de l'Apocalypse. Donc cette fois-ci, après le jugement, ça y est, nous sommes passés dans l'éternité. C'est l'ultime image du portail sud. Voilà. Donc tout ça, encore une fois, est soigneusement organisé, et toute cette ordonnance se retrouve dans les textes. Et justement, on retrouve également dans les passages du jugement dernier, évidemment, c'est la mise en image de Matthieu 24, je crois. Hein. Et si vous relisez ce chapitre-là du dernier avènement du Fils de l'homme, les apôtres lui disent « Seigneur, dis-nous quand est-ce que ça va arriver ?» Le Christ répond un peu à côté. C'est un peu dans ses habitudes.
Oui, je passe souvent des images ou des paraboles qu'on rumine sur le sens profond.
Il répond en disant « Vous allez subir des persécutions, je n'ai pas le texte mot à mot, donc vous allez être assaillis par de faux docteurs, etc. Ils vous tueront, etc. etc. » Mais voilà, si vous persistez, donc ensuite, il y a tout l'épisode du jugement, et puis il annonce que l'évangile, cette bonne parole, sera annoncée à tous les peuples. Hein. Donc vous avez là la synthèse des trois portails du sud. Je vous ai pas donné la synthèse des portails du nord, mais c'est la synthèse des portails du sud. Hein, puisque face au jugement dernier, l'annonce est précédée par l'annonce des persécutions qui vont assaillir l'Église. C'est le portail qui est sur votre gauche, vers l'ouest.
Et c'est l'art et cette beauté de ces statues du Moyen-Âge que l'on a une remémorisation de tous ces contenus. On a les apôtres à gauche et à droite du Christ, qui sont les apôtres qui diffusent la bonne nouvelle, et en même temps, comme ils portent les instruments de leur passion, ils annoncent déjà aussi les persécutions.
Ah ben ils ont été persécutés, c'est ce qui leur vaut justement d'être sur le co-juge.
Ils sont là à double titre, absolument. Ceux qui ont diffusé la bonne parole,
oui,
en même temps ceux qui ont subi les
Ils ont confessé leur foi. Alors justement, le portail qui se trouve donc vers l'est, à notre droite, on a l'habitude de l'appeler le portail des confesseurs. C'est pas faux, mais c'est réducteur, parce que les confesseurs, ce sont les martyrs aussi. Ils ont confessé leur foi, et comment ? Donc en fait, moi je vais pas changer les habitudes, vous savez, hein, j'ai pas cette ambition-là. Moi, personnellement, je l'appelle le portail des bons pasteurs.
D'autant plus qu'on a Saint-Martin et Saint-Nicolas qui étaient parmi les meilleurs pasteurs de leur époque.
Pour le coup, moi, je peux appuyer ça sur les textes qui, a priori, ont servi à la composition de ces portails. Voilà. Et donc, vous parliez justement, en prenant des petits détails, vous parliez des apôtres, vous remarquerez qu'ils ont tous les pieds nus. C'est un code de lecture pour les reconnaître. Pourquoi un choisi les pieds nus? C'est parce qu'Isaïe, et Néhémie d'ailleurs, parce qu'Isaïe, dans un de ses beaux textes, c'est écrit « Ah, qu'ils sont beaux les pieds des messagers qui vont porter la bonne nouvelle parmi les montagnes. » Alors évidemment, on ne veut pas leur cacher les pieds, n'est-ce pas? Et donc, vous voyez, c'est cette diffusion de la bonne nouvelle et qui va être continuée par la mission de l'Église à travers justement le portail des bons pasteurs. Voilà. Et donc, toute cette lumière va éclater jusqu'aux confins du monde.
Bah, c'est l'occasion d'évoquer peut-être justement ces attributs et autres éléments qui permettent d'identifier les statues, qui sont habillées en fonction de leur rôle. Oui. Le couvre-chef nous permet d'identifier un évêque ou un pape sur le socle aussi.
Si je vous ai dit pourquoi je suis sûr qu'il y a Grégoire le Grand et Saint Jérôme, c'est bien parce qu'il y a des détails.
Parlez-nous de ces détails.
Il n'y a plus d'inscriptions. Il y en avait sans doute quand les portails étaient peints, parce qu'ils étaient peints, on le sait, il reste des traces. Par exemple, vous avez une statue, donc vous voyez un grand personnage, bon, donc il a la chasuble, etc., tout ce qu'il faut, et il a une coiffure conique. Eh bien, c'est la tiare. C'est la tiare du XIIIe siècle. C'est le chapeau du pape. Donc, immanquablement, vous pouvez dire, ah, ben, déjà, celui-là, c'est un pape.
Et maintenant, bon. Comment est-ce qu'on peut distinguer tel pape d'un autre?
Voilà. Il y a des petits détails qui vont se rajouter. Par exemple, si vous regardez donc cette statue de Grégoire le Grand... Eh bien,
nous sommes côté sud, devant la porte de droite.
Voilà, côté du magasin La Crippe, vous voyez là. Et vous allez voir que sur son épaule, il y a un petit oiseau. En fait, c'est une colombe, sa tête est cassée. Et sous ses pieds, il y a un petit scribe, un clerc, parce qu'il est tonsuré, qui est à son écritoire et qui lève la tête pour regarder Grégoire. Ah, eh bien écoutez, vous allez lire la vie de Saint Grégoire et on va vous raconter... que Grégoire parlait comme cela d'abondance, il dictait. Il n'a pas écrit, il ne tient pas la plume. Hein. On sait que Saint-Bernard, c'est pareil, ils ne tiennent pas la plume, ces gens-là. Ils dictent leurs pensées à un scribe. C'est la différence entre la pratique et la théorie. Enfin, ça nous entraîne un peu loin.
Mais il savait écrire, je rassure tout de suite.
Oui, bien sûr. Et donc, son scribe était sidéré de voir la cohérence de la pensée de son maître qui sortait de sa bouche. Il n'y avait rien à retoucher, il n'avait plus qu'à écrire et tout était impeccable. À un moment donné, il s'est posé la question, mais c'est pas possible. Il a osé lever la tête et il a vu une colombe sur l'épaule de Grégoire. Évidemment, Grégoire est inspiré directement par l'Esprit-Saint. Voilà pourquoi.
C'est dommage que nous ne voyons plus le bec de l'oiseau proche de l'oreille de Saint Grégoire. Oui. Votre parole aussi, Michel Boutier, était inspirée aujourd'hui. Nous avons mieux compris l'agencement des images sur les portails de la cathédrale de Chartres. Tous les auditeurs qui sont intéressés et qui voudraient en savoir plus sont invités à devenir auditeurs, élèves de nos cours, des cours organisés par le Centre international Vitrail à l'École des Arts. Michel Boutier, vous donnez un cours sur la cathédrale, sur les vitraux. Donc bienvenue aux futurs élèves de vos cours. Et le futur cours dont le programme va apparaître prochainement et diffusé par le Centre international Vitrail. Sur les portails, justement, un cours m'insuffle, non pas le Saint-Esprit, mais Michel Boutier à l'oreille. Donc bienvenue, bonne journée, chers auditeurs. Ne me perturbez pas. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.